les conférences de la grenouille. À écouter sur le 88.8.
Aujourd'hui, sur l'invitation de l'IRD, Institut de Recherche pour le Développement, nous partons pour le Timor-Leste, jeune état charnière de l'Asie du Sud-Est et de l'Océanie, en compagnie de la géographe Dominique Guillot. Bonne écoute.
Je voulais juste présenter en quelques mots le laboratoire PALOC que je dirige pour encore quelques mois. Après, je passerai la main à quelqu'un d'autre. Donc, juste quelques mots sur l'UMR PALOC, basé donc à Paris, au siège du Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est une unité donc qui compte une quarantaine de chercheurs qui travaillent qui relèvent de disciplines extrêmement diverses, qui vont de l'archéologie à l'anthropologie, en passant par l'écologie, la muséologie, la géographie, l'histoire des sciences. Je crois que j'ai cité les principales disciplines, l'économie aussi. Et cette unité de recherche se consacre à l'analyse de tous les phénomènes de patrimonialisation avec un dispositif comparatif qui est établi sur toute la ceinture tropicale. Donc on essaye, on n'est pas absolument partout parce qu'on n'est pas assez nombreux, mais on essaye de confronter différents processus différents processus de patrimonialisation qu'on peut voir entre l'Afrique de l'Ouest, par exemple, de l'Est, le Brésil, qui est un de nos gros chantiers, l'Afrique du Nord, l'Asie du Sud-Est et l'Océanie. Le but étant de discerner les nouvelles, les manifestations les plus innovantes, disons, de cette question de patrimoine. Le patrimoine étant, ce qu'on hérite des générations antérieures et qu'on gère pour transmettre aux générations suivantes. Donc autour de cette définition-là, on essaye de voir la manière dont différents acteurs dans différents pays, avec que ce soit par exemple des patrimonialisations institutionnelles comme celle de l'UNESCO ou des patrimonialisations spontanées par certaines populations locales, c'est-à-dire ce qu'on oppose le top-down et le bottom-up, on essaye de voir la manière dont ces différentes manifestations, ces différents processus de patrimonialisation trouvent une expression dans le monde. Et on essaye de confronter et de voir toutes les innovations qu'il peut y avoir à ce sujet. Donc ça, c'était un aparté. Je dirige donc ce laboratoire, mais j'ai une autre casquette, c'est que je suis aussi chercheur ordinaire et au titre de chercheur, j'ai un terrain de recherche qui est le Timor oriental. Et je consacre environ 2 mois par an, dans le meilleur des cas, parce que diriger un labo, c'est quand même assez long, mais enfin, ça prend beaucoup de temps. Et je consacre donc 2 mois par an à ce terrain-là pour y aller. Et je travaille sur les données que je collecte avec un certain nombre de collègues. Donc je vais essayer de vous présenter les travaux en résumé que nous conduisons au Timor oriental, en vous parlant à la fois essayant de vous expliquer un peu la situation du Timor aujourd'hui et en essayant aussi de vous montrer l'intérêt et le caractère innovant de ce qu'on essaye de faire dans le cadre de ce terrain. Donc la première question qui se pose, c'est où ça se trouve. Alors le Timor, on est à l'extrémité est de l'Indonésie et au nord de l'Australie. Donc on est vraiment à la charnière de deux mondes. Quand on est au Timor, on s'en rend vraiment compte. On est à la charnière de l'Asie du Sud-Est, hein, dont la frontière passe aux alentours des Moluques, et puis des mondes océaniens qui sont symbolisés par exemple par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie et après plus loin tous les archipels d'Océanie. Donc c'est un monde entre ces deux univers. Une question qui était importante, c'est comment est-ce que on est arrivé au Timor, comment est-ce que l'équipe de PALOC est arrivée au Timor. Vous connaissez peut-être l'histoire de ce pays, qui est une histoire dans la période récente assez tragique. Le Timor a été le premier pays créé au XXIe siècle, puisque l'indépendance a été décrétée le 20 mai 2002, après une phase un peu d'histoire douloureuse que je vais aborder par la suite. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, Il y a eu en 2003 une rencontre entre le président, le premier président du Timor, qui était Xanana Gusmão, et Jacques Chirac, qui était le président de la France à l'époque, et aussi le premier ministre Ramos Horta, premier ministre du Timor. Et à l'occasion de cette rencontre, il y a eu une statuette primitive qui a été remise par Xanana Gusmão à Jacques Chirac. Et dans la perspective d'alimenter les collections d'art primitif qui allaient former par la suite le musée du Quai Branly. Le musée du Quai Branly a ouvert en 2006, comme vous le savez, et à ce moment-là, Jacques Chirac avait donné comme consigne à l'ambassade de France de conduire, de faire quelque chose pour le Timor. Mais la consigne était extrêmement vague et l'ambassade de France à Jakarta, qui n'était pas basée au Timor mais qui est basée donc à Jakarta, avait finalement assez peu de moyens pour cette injonction et a décidé de prendre des chercheurs qui étaient à cette époque-là en Indonésie. C'était moi et un collègue archéologue. Ils nous ont convoqué à l'ambassade et nous ont dit « Vous partez au Timor, vous avez carte blanche et vous pouvez faire une recherche comme vous l'entendez, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour le Timor. » Jacques Chirac a reçu Xanana Gusmão et je crois que la durée, le temps que Xanana Gusmão a été reçu par Jacques Chirac, c'était 1h30, c'est une durée invraisemblable. C'est le plus long, la plus longue durée de réception d'un chef d'État étranger par le président Chirac à cette époque. Donc le Quai d'Orsay avait dit « mais il faut absolument faire quelque chose pour le Timor » et c'est dans ce cadre-là qu'on a été donc envoyé. Mais moi, à l'époque, je ne connaissais rien au Timor. Donc, pour vous présenter une des caractéristiques de ce pays, c'est quand même sa très grande diversité linguistique. Donc ça, c'est l'île de Timor. Vous voyez toute la partie ouest, vous avez toute la partie en marron et vous avez une ligne pointillée qui dessine la limite entre Timor-Est, donc qui est le pays indépendant aujourd'hui, et Timor-Ouest, qui est la partie qui est toujours indonésienne. Tout ça dû à des héritages coloniaux, héritages historiques. Vous avez aussi une enclave qui est est-timoraise dans la partie ouest qui est indonésienne. Donc c'est assez compliqué déjà comme géographie. Ce que cette carte montre, c'est aussi la très grande diversité linguistique du Timor oriental, puisqu'on y compte pas moins de 34 langues. Là, vous avez des regroupements, mais il y a 34 langues, sans compter d'autres langues extrêmement mineures. Donc on est dans un contexte d'éclatement de très grande diversité linguistique et culturelle qui est vraiment tout à fait particulier au Timor et qui pose évidemment, vous pouvez l'imaginer, des problèmes pour l'unité nationale du pays. Autre caractéristique, ce sont des sociétés tout à fait spectaculaires, intéressantes. Je vais l'aborder un peu plus loin. Ce sont des sociétés de maison, c'est-à-dire la maison est une référence à la fois politique et géographique, enfin physique, si on peut dire. J'essaierai de vous expliquer un peu plus loin ce que ça représente. Et puis c'est une société qui est essentiellement rurale. On appelle économie duelle, c'est-à-dire il y a une capitale d'Ili où il y a des industries, du commerce, différentes activités qui relèvent d'un monde globalisé, mais 90% de la population vit de l'agriculture, d'une agriculture dans un contexte quelquefois un peu difficile, puisqu'il y a des périodes qui peuvent être de sécheresse qui peuvent être prolongées. Et puis, une autre caractéristique de ces sociétés, c'est qu'elles ont un rapport à la terre et au territoire qui est tout à fait particulier, qui est extrêmement fort, chargé, symboliquement chargé. Je vous ai mis quelques photos, donc là vous avez des exemples de maisons lignagères entièrement en matériaux végétaux, quoique ça tend à disparaître aujourd'hui, hein, avec évidemment la tôle ondulée qui remplace tout. Et puis des paysages marqués symboliquement, vous voyez des alignements de bambous qui ont un rôle symbolique. En bas à droite, vous avez une plateforme rituelle, ça c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, ce sont des lieux chargés de puissance sacrée, qui sont des poteaux en bois avec des plantes qui les accompagnent et surtout des pierres qui sont chargées de magie. Ça, ce sont des éléments qu'on rencontre à peu près partout au Timor oriental et qui caractérisent un lien très fort entre ces sociétés rurales, donc très enracinées, et le monde des ancêtres qui habitent tout un univers parallèle, surnaturel. Voilà. Je vais vous parler brièvement de l'histoire du Timor. Je ne vais pas entrer dans le détail des relations coloniales avec les Portugais, donc anciennes colonies portugaises. Il y a eu un échange entre les Néerlandais et les Portugais, donc les Néerlandais qui occupaient toute l'Indonésie et les Portugais qui avaient d'autres possessions. À un moment donné, il y a eu un échange et le Timor, la partie est de Timor, est devenue portugaise. Les Portugais arrivent à peu près au XVIIe, XVIIIe siècle. La caractéristique, c'est que c'est une économie de comptoir. Une économie de comptoir, ça veut dire qu'il n'y a que quelques localités sur la côte qui sont occupées, qui sont, où les Portugais sont implantés. Le reste du pays n'est pas connu, ni soutenu, ni véritablement exploré. Le territoire est géré depuis Macao, qui est très loin. Il y a finalement très peu de développement ou de changements qui sont apportés par cette colonisation. On a finalement, du coup, très peu d'informations sur la situation coloniale et encore moins sur la situation précoloniale. Les voyageurs, les quelques rares voyageurs comme Forbes en particulier, qui se promènent dans le pays, ne le visitent que pour repérer les ressources qu'une colonisation pourrait éventuellement en tirer. Donc le santal, le bois de santal, vous savez, ce bois qui a fait l'objet de commerce un peu partout dans toute la région. Un produit particulier du Timor qui fait l'objet d'exportations à des dates très anciennes, c'est le miel qui est réputé. Le miel est déjà cité dans les anciens registres chinois, je crois, dès le 9e siècle, on doit trouver des traces. Et puis quelques esclaves, comme dans toute la région, même si c'est un phénomène qu'on sous-estime et dont on parle assez peu. Les Portugais, petit à petit, font une ponction sur les économies locales via l'impôt. Il y a quelques rébellions dont l'histoire locale garde la trace au début du XXe siècle, par exemple. Et donc, c'est une colonie portugaise qui vivote jusqu'à qui est vraiment en marge de l'Empire, qui est gérée de loin, qui rapporte un peu. Il y a quelque chose qui change en 1974. Au Portugal, on a la révolution des œillets. Et le Portugal se défait à ce moment-là de la quasi-totalité de ses anciennes possessions. En 1975, le Timor Est devient indépendant et reste indépendant pendant un mois. Et un mois plus tard, l'Indonésie, qui est donc dans la partie ouest du pays et qui est l'archipel, le gros archipel, le voisin puissant, se prépare à envahir le pays. Avec l'accord tacite de l'Australie et des États-Unis, enfin ça fait partie des choses qu'on découvre peu à peu dans les archives aujourd'hui, et la neutralité d'à peu près tous les pays, à l'exception de ceux de la sphère lusophone, comme le Brésil, l'Angola, le Mozambique, qui ont toujours soutenu le Timor contre cette occupation indonésienne, et se sont opposés à cette occupation à l'ONU. Donc il y a une histoire assez tragique d'un pays qui est colonisé dans l'indifférence générale par l'Indonésie en 1975. Ce qui se passe ensuite, ce sont des périodes assez difficiles. Donc on a l'invasion de l'Indonésie en 1975 et on a ensuite 24 ans d'oppression et de quelque chose qui est proche d'un génocide. On a des internements de la population, des camps. Le but de l'Indonésie étant de placer des transmigrants dans certaines zones qui étaient exploitables, et puis de mater aussi une rébellion qui couvait. Donc ils déplacent les populations, ils contrôlent les naissances des populations locales, donc en particulier à travers des opérations de stérilisation, mais comme les Indonésiens le faisaient aussi dans leur province extérieure. À Sumatra, par exemple, c'est quelque chose qui était assez courant. Il y a aussi, parallèlement, l'Indonésie développe, pour la première fois, alors que ça, les gens le disent encore, autant les Portugais avaient fait peu pour le pays, autant les Indonésiens vont développer des infrastructures, construire des routes, construire des dispensaires, des écoles, le but étant d'alphabétiser la population et de les convertir, enfin de leur faire parler indonésien, de façon à en faire des Indonésiens, de les assimiler dans le pays. Alors, ceux qui ne pouvaient pas assimiler, ils mettaient dans des camps, et ceux qui pouvaient, ils essayaient d'alphabétiser la jeunesse dans les écoles. Donc, il y a toute une politique qui est bien rodée de l'Indonésie à ce sujet. Le résultat, dès que la nouvelle que les Indonésiens arrivent en 75 se répand, les populations s'enfuient dans les montagnes. La plupart y restent 3 mois, 6 mois, parce que c'était très très dur, il n'y a rien à manger dans ces régions. Une partie va y rester 24 ans, pour organiser une guérilla. Donc il y a toute une résistance qui s'installe dans les montagnes du Timor, dans des conditions de vie extrêmement rudes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils retrouvent des nourritures anciennes pour arriver à survivre. Donc ces nourritures anciennes, la connaissance aujourd'hui de racines, de plantes, de cueillettes est extrêmement vive au Timor, parce que c'est quelque chose qui a permis à cette résistance de survivre pendant très longtemps. Et c'est un thème, la connaissance de la biodiversité est un thème qui est extrêmement fort encore aujourd'hui. Entre-temps, d'autres choses se passent. On s'aperçoit qu'il y a des quantités énormes de pétrole dans le détroit qui sépare le Timor de l'Australie. Et en 99, on ne sait pas trop comment, l'Australie fait pression pour demander un référendum de façon à voir s'il est possible de pousser les populations à demander une autodétermination, pour savoir s'ils veulent être indépendants ou pas, de façon à essayer de voir si un État indépendant ne pourrait pas être viable avec le pétrole, avec lequel aussi l'Australie pourrait traiter. Donc je pense qu'il y a des tractations assez intéressées de l'Australie à ce sujet. La population vote à 98% pour l'indépendance, et les Indonésiens, mécontents, vous pouvez l'imaginer, se retirent, forcés par l'ONU, en détruisant tout ce qu'ils ont pu construire pendant ces 25 années, détruisant toutes les infrastructures, en conduisant des hécatombes de bétail, des chevaux, de vaches. Il y a des régions aujourd'hui où il n'y a plus un seul cheval, alors que c'était des régions connues parce que tous les transports se faisaient à cheval, aussi parce qu'il y a des motos, aujourd'hui il y a d'autres choses, mais il y a vraiment une hécatombe du bétail qui est très marquante. Et puis évidemment des exécutions de civils, des viols, des exactions absolument horribles. Et on est encore aujourd'hui dans la quête, dans la recherche de ces crimes de guerre, avec des experts étrangers qui travaillent au Timor sur toutes ces questions. Donc en fait il y a deux phases d'hécatombe, deux phases de massacre par les Indonésiens. La première, c'est à l'entrée du territoire en 1975, et la deuxième, c'est à la sortie du territoire en 1999. En 99, un fait frappant, c'est que la population du Timor est inférieure à celle de 1980, après que 25% de la population ait été massacrée au moment de cette sortie des Indonésiens. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on est passé à peu près 1,2 million d'habitants, ce qui donne une densité de 70 habitants au kilomètre carré. C'est peu pour l'Asie, mais c'est quand même important. Et puis, ce qui est aussi important, c'est qu'à partir de 99 et jusqu'en 2013, il y a eu les Nations Unies qui se sont installées dans le pays et qui ont donc contrôlé et rétabli la paix. C'est parce qu'en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que les États-Unis et l'Australie avaient un rôle majeur dans l'invasion du Timor par l'Indonésie. Donc voilà, ça c'était mon petit couplet politique. Mais c'est un contexte qui est important pour comprendre en fait que c'est un pays marqué, hein, où il y a eu quand même beaucoup de choses, une histoire qui était très lourde, récente, et que il y a des populations qui ont aussi énormément souffert. Je rappelle aussi qu'en 2006, donc l'ambassade de France en Indonésie nous envoie au Timor avec peu de moyens, mais carte blanche quand même pour faire une recherche. Le plus simple, c'était avec nos compétences de géographe et d'archéologue de faire un projet sur l'histoire du peuplement et des paysages. C'était donc assez évident. On était parti pour faire une recherche assez classique qui contribuait à la science, à la connaissance, et on a eu un financement pendant 2 années, 2006 et 2007. On travaillait aussi sur les paysages, sur la biodiversité, donc un certain nombre de choses qui documentaient vraiment la connaissance du Timor, sur lequel on ne savait pas énormément de choses. Hein, donc on a fouillé un abri sous roche qui permettait d'avoir une idée, qui était ornée, hein, une idée de l'ancienneté des peintures qu'on y trouvait, un certain nombre de paysages. Enfin bref, on commençait à préparer un terrain. Et puis, ce qui s'est passé en 2007, c'est que l'ambassade nous a dit, on arrête, on ne vous finance plus. On dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, si on regarde, en 2007, il y a eu l'élection de Sarkozy, c'était plus Chirac, et donc la continuité de l'ambassade n'était plus garantie. Alors après, en 2012, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu de nouveau une relance de l'ambassade qui nous a redemandé de partir au Timor, comme quoi on est aussi dépendant des balancements de la politique. Et là... avec un autre archéologue, on relance un projet. Par contre, en 2012, alors qu'en 2006, on était vraiment dans un contexte de reconstruction du pays, le pays était encore vraiment en proie à des troubles, des règlements de compte hein, après l'indépendance. En 2012, on est entré dans une phase où le développement se construit. On passe à vraiment quelque chose d'un peu différent. On a des projets de développement qui sont conçus pour le Timor et les projets de développement sont bâtis autour de deux pôles, si on peut dire. Le premier, c'est le pétrole. Ça, on l'avait déjà subodoré. Le pétrole est dans le détroit entre le Timor et l'Australie. Et il y a une dispute qui n'est pas encore réglée aujourd'hui sur les aires territoriales de chaque pays. Donc il y a des zones qui sont contestées. Et l'autre projet pour le Timor, c'est le tourisme, qui est un tourisme peut-être un peu compliqué dans la mesure où pour le moment, il n'y a vraiment pas d'infrastructure touristique dans le pays. Les routes sont quand même si elles ont été construites par les Nations Unies, elles sont dans un très mauvais état. Et surtout, pour un tourisme balnéaire, c'est truffé de crocodiles marins. Vous voyez les grands là qu'on voit qui viennent de Crocodile Dundee. Donc ça fait quand même quelques petits problèmes à régler. Bon, il n'y en a pas partout, donc il y a encore des endroits où ce développement touristique est possible. Mais ce sont, disons, les deux pôles sur lesquels le Timor table pour son développement. Et aussi l'agriculture industrielle, mais ça c'est un peu partout, la culture du riz en particulier. Alors le tourisme et le pétrole, je vais vous en parler par la suite dans les projets qu'on conduit. Ça induit des contextes extrêmement différents, mais avec une constante dans tous les cas, c'est que dans les deux cas, que ce soit du pétrole ou du tourisme, il y a des populations locales qui sont impactées par ces développements et qui sont dans ces développements très peu prises en compte. Et c'est là que nous, on peut intervenir. Il y a aussi un autre contexte, c'est que entre-temps, vous savez qu'il y a eu le protocole de Nagoya qui a été signé en 2011 et que ce protocole, c'est donc le protocole de Nagoya, c'est la continuité de la Convention sur la diversité biologique hein, de 92, prévoit que chaque signataire doit prendre des mesures pour que les communautés autochtones et locales doivent être d'accord avec les travaux qui sont conduits et doivent aussi bénéficier des retombées de tous les avantages qu'on va tirer de ces travaux-là. Donc on va, nous, à partir de 2011-2012, quand on développe nos recherches sur le Timor, s'inspirer de cette contrainte pour essayer de développer une recherche qui prenne en compte les populations locales et qui propose aussi un partage équitable des résultats de la recherche avec ces populations. Voilà, et surtout, un autre point qu'on oublie trop souvent en recherche, c'est l'obtention d'un consentement préalable informé, c'est comme ça que ça s'appelle, auprès des populations. C'est-à-dire qu'il est indispensable de leur expliquer quel est le but de la recherche, pas simplement d'obtenir des informations et de les prendre et de les valoriser chez nous au Nord, mais d'obtenir leur accord en leur expliquant ce qu'on va faire de ces résultats. Bon, c'est vrai pour des recherches qui peuvent déboucher sur des labellisations, sur des brevets par exemple, mais c'est vrai aussi pour des recherches de sciences humaines pour lesquelles il est important aussi d'expliquer à ces populations ce qu'on va faire des infos qu'ils nous donnent. Or ça, c'est pas une pratique qui est encore très développée dans notre recherche au Nord. On prend souvent les informations et puis on va les valoriser dans des revues qu'on dit de rang A, par exemple, ou des revues plus ou moins scientifiques, plus ou moins vulgarisées, mais il n'y a pas de retombée ensuite pour les populations locales. Donc nous, on va s'efforcer de faire quelque chose qui aille vers ces populations. Donc c'est dans ce contexte qu'on a décidé de développer une approche participative des patrimoines. Donc on parle beaucoup de participatif aujourd'hui. D'abord, comme je vous le disais, à cause de la montée en puissance des communautés autochtones. Bon, l'une des choses intéressantes aussi, c'est que ça remet en cause les liens entre science et progrès. C'est-à-dire, on n'est plus tout à fait sûr que la science, ça permet de parvenir à des avancées si nettes que ça. Le désengagement des États, du genre « do it yourself », faites-le vous-même. Et les populations, finalement, peuvent être aussi considérées comme des sources de savoir. Et puis un certain nombre d'évolutions techniques comme les GPS, hein, les ordinateurs, qui permettent aux populations d'être elles-mêmes des acteurs de la science. Mais on a un investissement massif du participatif, en particulier par les ONG, et puis des instances internationales, des instituts de recherche pour lier connaissances et actions. À PALOC, donc le laboratoire patrimoine locaux, on a une approche participative des patrimoines qui se fait à travers un thème en particulier, celui de la cartographie participative. On le fait sur différents terrains. On le fait donc au Kenya avec pour résoudre des conflits fonciers. On le fait au Brésil pour essayer de la demande des communautés amérindiennes d'ailleurs, qui essayent de faire valoir les territoires qu'ils occupent depuis, qu'ils occupent dans la carte, disons, de l'État brésilien. On le fait aux Marquises pour essayer d'alimenter la construction d'une aire marine protégée en prenant en compte ce qui est représentation des populations locales. On le fait aussi au Sénégal pour essayer de comprendre comment les littoraux sont gérés par les populations locales et quelles sont leurs représentations. Donc le but de la carto participative, c'est d'essayer de recueillir sur des cartes, alors avec il y a plein de manières de le faire, que ce soit des images satellites où les informateurs se repèrent, ou des cartes libres sur lesquelles ils vont dessiner leur représentation du territoire. Mais c'est en tout cas un moyen extrêmement intéressant pour avoir des informations qui sont des informations qui complètent de façon très intéressante les informations scientifiques que nous, on peut recueillir avec différentes méthodes. Le participatif, on le fait aussi pour différentes raisons. Quelquefois, c'est pour des raisons pratiques. C'est souvent le seul moyen d'avoir des infos sur certains domaines. On peut aussi le faire pour des raisons de coût, parce que ce sont des données que les populations peuvent livrer sans forcément déployer toute une batterie d'instruments de mesure. Donc on a divers avantages. On peut aussi sensibiliser et éduquer, c'est-à-dire en s'intéressant aux représentations des populations locales, on leur indique aussi que ces représentations-là ont de la valeur, que c'est pas n'importe quoi, et que c'est quelque chose qui leur permet, eux, de s'affirmer. Et c'est surtout dans cette logique qu'on travaille à PALOC, dans une logique d'empowerment, de renforcement des capacités des populations. Voilà, on essaye de faire en sorte qu'ils s'approprient certaines questions et qu'ils revalorisent leur savoir, quand des chercheurs de l'extérieur viennent leur poser des questions sur des savoirs locaux, c'est aussi un moyen pour désigner ces savoirs comme présentant un intérêt et pour ne pas les abandonner ou les délaisser. Voilà, je vais rentrer plus dans le vif du sujet. Vous disant, donc le participatif, en résumé, c'est un peu la marque de fabrique de l'UMR PALOC et on essaye de le développer. On va probablement le développer de plus en plus dans les années à venir, aussi bien à travers des approches de patrimonialisation institutionnelle que de patrimonialisation par le bas, celle des populations qui essayent de faire reconnaître les patrimoines qui sont les leurs, et en s'interrogeant bien sûr dans l'ensemble de ces processus sur un thème extrêmement important. C'est le rôle du chercheur, parce que nous là-dedans on n'est pas neutre, donc comment est-ce qu'on intervient, puisque forcément en intervenant en proposant des opérations de cartographie participative, on est forcément un des acteurs de cette construction patrimoniale. Donc on se pose des questions aussi sur le rôle des chercheurs dans l'élaboration des patrimoines, en particulier à travers le participatif. Donc les terrains, en fait, au Timor on en a trois qui sont très divers et qui ont des constantes de l'un à l'autre. Je vous en présenterai que deux pour des raisons de temps. Le troisième terrain, juste pour mémoire, c'est une île qui est située au large de la capitale, Dili, et qui est à une heure de bateau à peu près, un bateau à moteur rapide, et où il y a un gros projet de développement touristique qui est peut-être le plus soutenable dans la mesure où cette île n'a pas de crocodile. Et c'est aussi notre terrain le plus récent, donc ça je vous en parlerai pas. Je vous parlerai des deux autres terrains qui sont tous les deux d'ailleurs pas loin de la frontière indonésienne, donc vers l'ouest du pays. Les constantes qui est entre ces deux terrains, je voulais vous les énoncer. Donc je reprends un peu ce que j'avais dit tout à l'heure. On parle d'une société de maisons, société rurale de maisons ancrée dans son territoire. Donc les maisons, en fait, c'est une référence à un lignage et aussi à une bâtisse, à une construction, à une maison réelle. Pour construire cette maison, qui est une maison lignagère, on dit maison sacrée sur place, on ne peut pas la rebâtir ou changer son toit sans opérer un certain nombre de rituels. Tous les gestes qui touchent à cette maison sont des objets extrêmement sacrés. Toutes les actions autour de cette maison sont réglée par des rituels. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est vraiment un monde extrêmement réglé par des cérémonies, par des procédures coutumières. Donc ces maisons sont organisées entre elles, elles portent un nom, et elles sont reliées à d'autres maisons prééminentes. Donc dans un village, c'est un groupe de maisons qui relèvent chacun de lignages différents. Mais quelquefois, une maison, un lignage, donc, se scinde et donne naissance à une autre maison qui va être subordonnée à la première. Donc en fait, on a des chemins de lignage. Les maisons se déplacent, peuvent partir dans un autre village, s'associer à d'autres maisons, et on a à chaque fois des combinaisons qui sont originales autour de ces maisons, avec toujours une ou deux maisons qui sont prééminentes et qui organisent donc la vie cérémonielle de l'ensemble du village. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le territoire, dans une société hyper ritualisée, est un espace qui est cérémoniel. Les rituels sont organisés surtout autour d'un thème qui est celui du thème de l'agriculture, du cycle agraire. Et en fait, le cycle agraire est ritualisé pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de récolte si les ancêtres et les esprits ne favorisent pas ces récoltes. Donc on a les rituels visent à se concilier en fait les bonnes grâces de ces ancêtres et de ces esprits, de toutes ces entités qui peuplent le monde. Et au cours de ces rituels, il y a forcément aussi les lignes de force de la société qui sont rappelées, c'est-à-dire la prééminence des maisons les unes par rapport aux autres. Donc il faut concevoir les rituels comme étant la combinaison de ces deux phénomènes, la reconnaissance, le remerciement ou la demande d'une aide aux ancêtres et aux esprits, et en fait, parallèlement, la réactivation de l'ordre de la société pour ne pas causer de désordre qui pourrait aussi porter préjudice aux récoltes. Donc tout est organisé pour obtenir des bonnes récoltes et aussi pour garantir que tout se passe bien, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de catastrophe qui frappe les récoltes, mais aussi les maisons en général, pas de foudre, pas de maladie, donc pour garantir le bien-être de la communauté. Alors, ces rituels s'appuient sur des lieux forts, qui sont des lieux de communication avec les ancêtres et avec les esprits. Et en particulier, les anciens sites d'habitat qu'occupaient les ancêtres sont des lieux, des portes de communication extrêmement importantes avec ses ancêtres. Ces anciens sites sont des lieux où des rituels vont être accomplis aussi pour demander l'aide des ancêtres. D'autres sites remarquables, ça peut être aussi un rocher ou une zone de végétation exceptionnelle, une source, sont des lieux chargés de magie où on va aussi demander l'aide des ancêtres et des esprits. Ce qui est intéressant, c'est que le territoire, c'est évidemment un lieu réactivé, donc un espace ponctué de lieux forts où des rituels vont être accomplis, mais ces rituels vont être accomplis aussi pour garantir le succès des productions. Donc c'est aussi un espace de production. Et on s'intéresse donc non seulement aux rituels qui constituent le territoire, aux récits qui sont associés à chacun des sites, donc, par exemple quel était ce site, qui étaient les gens qui l'occupaient, où sont les descendants aujourd'hui, d'où venaient les gens, enfin un certain nombre d'informations. Et puis ça peut être aussi une mythologie qui est associée à différents sites. Ce qui est important, c'est de savoir que cette ritualisation extrême du territoire fonctionne à différentes échelles. Donc c'est en fait un système extrêmement logique, si on prend le temps de l'examiner, de le comprendre, et qui permet de justement d'entrevoir un univers qui est peut-être pour nous tout à fait singulier, mais qui est tout à fait banal pour les populations locales, et qui constitue cet ensemble de rituels, de savoirs sur la terre, de connaissances sur d'anciens sites et de pratiques plus ou moins magiques. Tout ça, c'est ce qui constitue le patrimoine des populations locales aussi. Donc on travaille là-dessus. Donc il y a aussi des circuits rituels, c'est toujours sous forme de circuits, qui ponctuent les lieux importants de l'histoire et du territoire du groupe. Donc le bétel intervient à chaque fois dans ces sacrifices, c'est quelque chose qui est très important. Quelques grains de riz, des pièces de monnaie, puis quelquefois le sang d'un animal. Je vous en parlerai un peu plus loin. On a donc voilà une constante donc des deux groupes dans lesquels on travaille. Je vais vous présenter le premier terrain, c'est celui qui se trouve un terrain de la côte sud. Donc la côte sud, c'est un terrain où il est prévu d'installer une raffinerie de pétrole. Et ce terrain En fait, la côte sud était pendant très longtemps délaissée dans le développement. C'est de l'autre côté, il y a une chaîne centrale qui est au milieu du Timor, qui est difficile à traverser. Et les communications, les routes sont encore extrêmement mauvaises pour faire les 260 km qui séparent Dili de Swai, par exemple, qui est la région. Il faut 8 heures ou plus, donc c'est vraiment des routes très très, très mauvaises. Et ça, c'est une situation qui est améliorée. Donc toute la côte sud était complètement enclavée, difficile d'accès, et il n'y avait vraiment aucun développement jusqu'à une période récente. Et aujourd'hui, comme c'est la zone la plus proche de la mer de Timor où se trouve le pétrole, le Timor espère développer des infrastructures pétrolières qui permettraient de raffiner le pétrole qu'ils espèrent va revenir au Timor, alors que jusqu'à présent, jusqu'à une date récente, il était exploité surtout au bénéfice de l'Australie, avec une rente versée au Timor, bien sûr. Donc le projet s'appelle Timor Gap, et avec des projets pharaoniques de vraiment pour information, donc il y aura une base d'approvisionnement à Swai, une ville nouvelle, un aéroport. À Betano, c'est la raffinerie elle-même, avec aussi un héliport, etc. Enfin, port en eau profonde à Nova Swai aussi. Et puis une raffinerie de gaz à Vikeke, avec héliport, port en eau profonde, et une autoroute qui relie tout ça. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment dans des zones où il y a absolument rien. Enfin, on met, je pense, 8 heures pour faire toute cette distance quand la route est sèche. Ce sont donc des bouleversements extrêmement importants qui vont être apportés aux populations. Donc, trois clusters pétroliers, quelque chose de, et puis des trois villes nouvelles aussi. Donc, il est question pour ces grands aménagements de les implanter là où il y a des communautés locales, des villages traditionnels, en particulier un petit village qui s'appelle Olbelis. Et ce village se trouve à côté d'une piste d'aviation qui existe déjà et qui doit être agrandie en aéroport international, rien de moins. Et évidemment, il est prévu, les bulldozers sont déjà entrés en action, et il est prévu que ce village soit complètement déplacé ou détruit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a été en fait sollicité pour ce projet par une ONG qui s'appelle Timored, qui est une ONG intéressante, parce qu'au départ, c'était une ONG de résistants qui, sous couvert d'apporter de l'aide alimentaire aux populations, nourrissaient la résistance. Donc, ils étaient très soutenus par les populations du Timor. Mais à l'indépendance, ils se sont trouvés un peu désœuvrés, puisqu'ils n'avaient plus de résistance à soutenir. Et ils ont décidé de se reconvertir dans des thèmes culturels, en particulier les textiles. Et là, aujourd'hui, ils souhaitent s'ouvrir à d'autres aspects culturels comme la musique, la poterie, les plantes, et travailler avec nous sur des actions de cartographie participative. Donc, ils veulent sous-traiter aussi certaines actions du gouvernement timorais dans le domaine de la culture. Et ils ont travaillé donc dans la région de Swai, la région pétrolière, sur les textiles, mais voudraient qu'on intervenir avec nous. Nous ont sollicité pour cette opération, pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour aider ces populations qui allaient être donc déplacées. Et nous, on leur a proposé donc un projet de cartographie participative. Je voulais insister un peu sur les acteurs, parce que c'est quelque chose d'important. On travaille aussi avec le secrétariat d'État à l'art et à la culture, qui est notre partenaire, avec lequel on a signé une convention, qui est basée dans la capitale, et qui en fait est une dépendance du ministère du tourisme. La culture est dans le tourisme, ce qui est déjà tout un programme. Et le but du secrétariat d'État à la culture, c'est de faire des inventaires de sites. Donc on est dans cette logique d'inventaire de sites. Avec Timored, on est dans une logique de restitution des résultats aux populations. Et puis on travaille forcément avec les populations locales, puisqu'on veut faire du participatif. Et ce qui est intéressant, c'est que les populations locales, c'est pas du tout des communautés, c'est un groupe extrêmement complexe. Je vais essayer de vous en donner un petit aperçu. Les populations locales, c'est d'abord tout ce qui est les chefs de village, les responsables de l'administration, donc, qui sont une émanation d'autorités provinciales. En fait, c'est eux qui organisent les rapports avec les autorités coutumières. Ils vérifient que tout se passe bien, ils sont des gens de la région, ils sont instruits, ils parlent l'indonésien, parce que moi je communique en indonésien avec eux. Et puis, il y a d'autres acteurs qui, eux, n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Il y a l'ancienne aristocratie, parce qu'à l'époque où les Portugais monter leur relation de comptoir, leur commerce avec les populations du Timor, ils ont désigné, comme ils l'ont fait, comme tous les colons l'ont fait partout, ils ont désigné des interlocuteurs privilégiés qui étaient ce qu'on appelle les liurai, et qu'ils ont désigné comme rois. Et ils ont désigné des royaumes aussi, alors qu'on avait souvent affaire à des gens qui étaient des responsables d'une maison, une maison lignagère plus ou moins importante, enfin importante en général. Et puis, ces gens-là ont souvent, dans les opérations qu'on conduit, un intérêt à faire valoir leur situation antérieure. Donc, ils ont tendance à se présenter comme étant les détenteurs de plus de droits que les autres sur la terre, les détenteurs de plus de prérogatives. Donc, on a déjà ce biais qui est important à contourner. On a aussi les érudits. Alors là, vous avez un maître d'école qui est très aidant, parce qu'il nous transcrit tout ce qui relève du système traditionnel, mais en transcrivant, il appauvrit aussi beaucoup, ou il le met vraiment à sa sauce pour nous le rendre vraiment compréhensible. Or, les choses ne sont pas toujours simples, les choses ne sont pas toujours limpides, et quelquefois, les choses ne sont pas toujours logiques. Et lui, ce qu'il veut, c'est répondre à une logique scolaire, oui, on peut le dire. Et il a tendance aussi donc à nous mâcher tout un travail. Donc quand on travaille avec lui, il faut savoir que c'est pas faut prendre ce qu'il dit avec des pincettes. Il y a alors très important, les autorités coutumières, parce que c'est eux qui ont la parole, et ça c'est très très compliqué. Vous allez plus le voir dans le deuxième exemple que dans celui-là, parce que là on est donc sur la côte sud, mais plus au nord c'est beaucoup plus compliqué. Et ce sont des sources, les autorités coutumières, des sources importantes d'informations, parce que sur les territoires, les circuits rituels et tout ça, c'est eux qui ont le pouvoir de nous donner l'info. Et enfin, il y a les femmes, qui n'ont pas forcément le droit à la parole. Mais les femmes, elles ont aussi, quand on travaille avec elles, qu'on les sollicite, elles ont une autre vision des choses et elles ont d'autres lieux sacrés que ceux des hommes. Donc c'est intéressant aussi de travailler avec tous les acteurs possibles, avec une grande diversité, en sachant que chacun peut avoir aussi ses intérêts dans la construction de ce participatif. Donc c'est vraiment pas quelque chose de très simple. Donc les objectifs qu'on a fait pour cette carto participative, c'est, on a défini nous les objectifs, on a dit on veut faire une carte de votre patrimoine, et puis c'est eux qui ont dit nous notre patrimoine c'est ça. Donc on avait un certain nombre de choses qu'on voulait cartographier, et pour tout ça évidemment on a utilisé des méthodes assez classiques de l'ethnographie et de l'histoire, hein, des entretiens sur la tradition orale. Ensuite on les a suivis, une fois qu'on a obtenu les infos sur les différents éléments, on les suivait sur le terrain et ils nous les montraient quand c'était possible, parce que quelquefois c'est compliqué, une forêt sacrée on n'entre pas comme ça, mais sur tous les sites qu'on pouvait visiter on a pris des points GPS, on a essayé de cartographier. On a fait des photos, quelquefois c'était pas possible de faire des photos de certaines choses. Donc on avait aussi, ce qui était intéressant, c'est que beaucoup de ces sites avaient un intérêt archéologique, donc comme dans l'équipe il y a un archéologue, ça permettait de documenter un certain nombre d'aspects pour les populations qui n'étaient pas forcément conscients de l'intérêt archéologique de certains abris sous roche par exemple. Donc on a un certain nombre de choses qui se répondaient dans notre recherche. Un des problèmes, ça a été la langue de travail, puisqu'on parlait dans cette équipe avec l'ONG Timor-Aide, on parlait la langue donc véhiculaire du Timor, qui est le tetum. On parlait le tetum terik, qui est la langue de la région, c'est du tetum avec des conjugaisons, donc très très compliqué. On parlait le bunak, puisqu'il y a un autre groupe linguistique qui est présent dans la région. On parlait l'indonésien, parce que ça, c'est la langue que tout le monde comprend avec 25 ans d'occupation, même si c'est pas toujours très apprécié de parler indonésien. On parlait l'anglais aussi pour communiquer avec ceux qui parlaient l'anglais, les tetum, ou puis d'autres qui parlaient pas ça. Et on parlait le portugais aussi, puisque j'ai une doctorante brésilienne qui, elle, se consacre à l'étude, à la poursuite donc de ce travail sur le terrain. Donc, c'est le problème de communication. Les parcours sur le terrain ont permis d'identifier plusieurs éléments, donc les maisons, là les maisons nommées, les maisons lignagères, et autour de chacune des maisons, enfin accompagnant chacune des maisons, il y a des hôtels qui accompagnent ces maisons. En principe, chaque maison a son hôtel, mais comme pour installer un hôtel, il faut une cérémonie, puisqu'on fait venir l'hôtel de l'emplacement précédent de la maison, que les maisons ont été déplacées au temps des Indonésiens et que donc l'ancien site comporte toujours les hôtels qui n'ont pas été déménagés, que c'est compliqué de le faire, qu'il faut faire une fête, tuer des animaux, trouver beaucoup de riz, trouver des gens qui assistent à la cérémonie, faire venir tout le monde, c'est très compliqué. Donc c'est tellement compliqué que tous ne l'ont pas fait. Donc. Mais il y a quand même un certain nombre d'hôtels présents dans la région. Donc on a fait le tour de toutes les maisons. Vous avez aussi des arbres qui peuvent être des lieux importants. Vous avez un banyan, un ficus, qui est un arbre extrêmement important qui est planté au centre des villages. Donc on a obtenu un certain nombre d'informations sur ces objets patrimoniaux. Autre expérience, donc, on a fait un parcours du terrain avec les informateurs, on a été sur les anciens sites, repérer d'anciens hôtels qui sont encore des lieux où des rituels vont être accomplis. Et puis on a fait des expériences de cartographie par les populations, de ce qui était leur territoire avec des choses extrêmement surprenantes. Enfin, c'était du cubisme parce que les échelles ne sont pas du tout respectées. Mais par contre, ce type de dessin fait par les populations de leur territoire permet d'avoir une idée absolument formidable de leur représentation du territoire, de la manière dont ils le voient. On voit donc c'est structuré par des rivières, les échelles ne comptent pas du tout. Le fait que ce soit une zone d'habitat dense ou pas n'a aucune importance. Ce qui compte, ce sont des partages de l'espace. Et là, on voit bien comment ça s'organise. Et puis, évidemment, on a travaillé sur d'autres éléments, c'est-à-dire les ressources naturelles qu'on pouvait trouver sur le territoire. Pas seulement ce qui était cultivé, mais aussi ce qui était sauvage. Alors, beaucoup de haricots sauvages, toxiques, qu'il faut faire bouillir longtemps avant de les consommer. Des plantes comme les Amorphophallus, qui sont aussi des aliments anciens, extrêmement importants. Des ignames, toutes ces ressources. On a essayé de cartographier les zones où les populations allaient prendre leurs différentes ressources. Alors, le principal résultat, c'est donc une cartographie des maisons sacrées. Toutes les maisons ne sont pas sacrées, mais les maisons sacrées nommées, enfin maisons nobles, on les a appelées, et puis des maisons qui dominent toutes les autres. Donc on a une cartographie. On a une cartographie aussi d'éléments dynamiques. Par exemple, il y a un circuit qui est accompli par toutes les populations, qui les conduit d'une maison particulière à une autre au moment des rituels des semailles, hein, pour remercier des récoltes. Et tout un circuit qui les conduit à l'intérieur du village, de maison en maison, et qui aboutit devant la plus haute maison, Baboulou, qui se trouve tout à fait en haut de la carte. Et on a toute une cartographie. On doit revenir au mois de juin prochain dans le village pour leur restituer l'ensemble de ces informations avec des cartes à différentes échelles, celle du village, avec donc une espèce de storyboard des différents éléments, et à une échelle de l'ensemble du territoire avec tous les sites qu'ils ont mentionnés, puis on cherche des solutions pour transcrire ce qui est, par exemple, ce qui relève des récits associés aux différents sites, des mythes. Donc on va aussi réfléchir avec eux à des solutions pour des restitutions de l'ensemble de tout ça. Est-ce qu'on fait un site internet? Est-ce qu'on fait une exposition dans la ville la plus proche? Est-ce qu'on laisse des panneaux? Donc ils veulent un livre, ça c'est sûr. Donc on a toutes ces solutions qu'on va devoir discuter avec eux à partir du mois de juillet. Je vois que le temps s'écoule et je vais passer au terrain suivant. Donc l'autre terrain, c'est Balibo, donc l'ombre des massacres de 75, parce que c'est par là que les Indonésiens sont entrés. Et le seul projet de cette région, c'est un projet, bon, c'est un petit projet touristique. Donc il y a un fort portugais qui a été donc construit à une date assez indéterminée, qui vient d'être transformé en hôtel. Puis à droite, vous avez le village de Balibo. C'est par contre un lieu qui est marqué à tout jamais par un événement qui s'est produit en octobre 75, le jour où les Indonésiens sont entrés. C'est le meurtre des 5 journalistes australiens qu'on appelle les Balibo Five, qui étaient réfugiés dans le village et qui pensaient que, ayant peint un drapeau australien sur la porte de la maison où ils étaient, pensaient qu'ils seraient épargnés par les militaires. Mais l'armée indonésienne qui est entrée dans le village les a exécutés de façon extrêmement sauvage. Et le village est marqué à tout jamais par ce drame que tous les habitants ont vu, quoi, hein, et qui est encore un lieu, enfin, qui crée un lieu extrêmement fort. Les Australiens viennent en pèlerinage à Balibo, devant une stèle, ils s'arrêtent 3 minutes, ils viennent en minibus, s'arrêtent 3 minutes, quelquefois ils logent, ben, l'hôtel vient d'ouvrir, mais aujourd'hui ils logent dans l'hôtel, mais ils en sortent quasiment pas, et le reste du village est complètement à l'écart, et on a l'impression que qu'il y a une espèce de peur de ces populations. Enfin, il y a un petit loupé, quoi, hein, dans ce fort qui a vraiment une position dominante, qui est très chère, où les populations n'osent pas pénétrer, et avec toute la population qui est donc dans des zones très très rurales et pas du tout exploitées. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'est arrêté là pas parce qu'on a vu le fort, mais on s'est arrêté là parce qu'on a vu des calcaires. Et avec mon collègue archéologue, c'est le premier endroit où on a conduit des sondages et des fouilles archéologiques à partir de 2012. Donc, il a fait des sondages, il a trouvé des résultats, mais ce qui était extrêmement difficile, c'était d'obtenir les autorisations pour faire ces fouilles archéologiques. La première fois qu'on est arrivé, on avait pourtant prévenu de notre arrivée, demandé aux populations de venir pour que les coutumiers nous donnent leur autorisation. Et on a passé 3 jours avec les coutumiers qui étaient là, tous les responsables terriens des zones où on demandait à faire des sondages, qui étaient là et qui partaient quelquefois un quart d'heure, puis revenaient. Et puis, ils nous reposaient des questions et ça durait pendant 3 jours avant qu'ils nous donnent l'autorisation. Et finalement, on a réussi par comprendre ce qui se passait. C'est que c'était la première fois que des chercheurs venaient ouvrir la terre, pas pour cultiver, mais pour prendre des informations. Moi, je leur avais même préparé un petit PowerPoint pour leur expliquer comment on faisait des sondages, que plus on creusait, plus c'était ancien. Enfin, j'avais fait une démonstration d'archéologie. Et en fait, eux, ce qu'ils voulaient savoir, c'est ce qu'il fallait. Ils se sont interrogés 3 jours sur ce qu'il fallait offrir aux ancêtres pour avoir leur accord. Et ça, comme c'était jamais arrivé, ça a été extrêmement compliqué à obtenir. Et on a tranché grâce à l'aide d'un big man, quoi, du village, qui nous a, qui a tranché, qui a dit voilà, donc pour ouvrir la terre, il faut le sang d'un animal qui chauffe la terre. Et ça, quand on fait les cultures, c'est toujours on sacrifie un poulet. Un poulet, c'est du sang chaud, ça ouvre la terre, ça permet aux plantes de pousser. Et puis après, il dit, et pour refermer la terre, par contre, ce qu'il faudra, c'est un cochon, parce que le cochon, c'est du sang froid, et c'est ce qui permet à la terre, après, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas d'histoire, ça va se refermer, et il n'y aura plus d'histoire avec vos fouilles. Donc si on sacrifie un poulet, on est sûr que vous aurez des résultats dans vos fouilles archéologiques. Bon, il en a eu un petit peu, effectivement. Mais, et puis après, il faudra bien penser au cochon. Donc on a compris qu'en fait, ce qui bloquait, c'était ce système rituel qui était très compliqué, qu'on ne comprenait pas du tout. Donc on a réussi à avoir les fouilles pour les autorisations pour les fouilles, mais j'avais beaucoup de mal à avoir des infos sur l'histoire du peuplement, les déplacements, les cultures, tout. À chaque fois, les informations s'arrêtaient. J'avais un informateur, le big man en question, qui nous avait aidés, qui aurait adoré nous donner plus d'informations. Il parlait d'un circuit rituel. Donc vous voyez cette vallée, une belle vallée. Les gens autrefois étaient établis sur les massifs et puis se sont dispersés après sur la totalité des massifs. Et vous avez une mare au fond dans le creux de cette vallée. Et il y a un circuit rituel qui se fait tous les 7 ans, qui démarre aux abords de cette mare avec tous les clans de la région qui se sont dispersés, qui démarre avec des portes d'entrée qui sont à différents endroits de la mare et qui vont après faire un circuit où il va y avoir des sacrifices d'animaux à différents endroits sur les reliefs. Cet informateur commence à m'en parler, ça c'est une anecdote, il commence à m'en parler, puis à un moment donné, il s'arrête complètement et puis il fait comme ça. Et il y a un de ses amis qui était juste là, puis il fait comme ça aussi. Puis il continue à m'en parler, puis d'un coup, il s'arrête de nouveau à parler, il me donne des informations, puis ça s'arrête brutalement. Et j'ai compris qu'en fait, à chaque fois qu'il faisait comme ça, il y avait un margouilla, vous voyez ce que c'est ? Un petit lézard qui chantait, ça fait un bruit comme ça. Et le lézard, ils nous ont expliqué qu'en fait, le lézard leur disait qu'ils en disaient trop. Donc on est obligé de fonctionner avec ce genre de... Pour vous donner une idée un peu du fonctionnement du terrain et des difficultés insoupçonnables auxquelles on peut être confronté, c'est que le lézard lui disait de se taire, qu'il en disait trop et qu'il n'avait pas l'autorisation de parler. Donc ça, c'était compliqué. J'ai compris que... Enfin, on avait compris que c'était une société du secret. Pour moi, toutes les informations, tout ce qui touchait au passé ou aux ancêtres, c'était l'objet d'interdits et on ne pouvait obtenir des informations que si on organisait donc la parole. Bon, on a fait des avancées sur différents domaines, hein, pour vous donner un peu d'idées. On a travaillé sur la poterie, on a fait des entretiens, on a travaillé beaucoup plus facile sur les forêts sacrées, sur les sources, les hôtels. On a réussi à avoir des informations dans différents domaines. Et puis, on a pensé que le savoir, enfin moi je pensais qu'à un moment donné que le savoir était collectif et que donc il ne pouvait être dévoilé que dans un contexte collectif. C'est pour ça que le type ne pouvait pas me parler seul, il fallait que les autres soient réunis. Donc on a réuni une deuxième fois tous les responsables coutumiers. Donc on a pu avoir des bribes d'informations et en fait au bout d'un certain temps, on a encore réuni tous les coutumiers pour la troisième fois. Et on a vraiment fait du participatif, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils estimaient qui était important dans leur culture et qu'est-ce qu'ils souhaitaient. Et là, ils ont commencé à parler, plutôt que de leur demander, en fait, voilà, on voudrait recueillir ça, 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 on a dit, voilà, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voulez, vous savez ce qu'on peut faire, ça fait 3 ans qu'on vient, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne. Et là, ils nous ont dit, s'il y a des choses qu'on aimerait bien avoir, c'est que d'abord, on avait, avant l'arrivée des Indonésiens, on avait dans chacune de nos maisons lignagères des récits. Alors, je ne sais pas sous quelle forme c'était, si c'était des textes ou si c'était des papiers, des différentes choses. Mais enfin, tout a été brûlé, vous avez vu, par les Indonésiens au moment de leur venue. Ils disaient, on avait tous les récits de nos lignages. Et ça, on voudrait que vous veniez et qu'on vous parle. Vous prenez un soir, parce qu'on ne peut parler que le soir. Hein, le reste du temps, dans la journée, on ne peut pas parler des choses qui concernent les ancêtres. On fera les cérémonies nécessaires pour l'ouverture de la parole. Et on va vous parler un soir par maison, il y a 12 maisons, et puis pour les maisons importantes, peut-être 2 soirs. Donc si vous venez 15 jours, 3 semaines, venez en juillet, il n'y a pas de travaux des champs, il n'y a pas de pluie, on va être tranquille. Donc il est prévu qu'en juillet, on retourne là-bas et on fasse un enregistrement de tous les récits lignagers de leur lieu d'origine. Et il y a donc, est organisée une véritable cérémonie d'ouverture de la parole. Donc notre partenaire, le secrétariat d'État à la culture, a dit chouette, on vient aussi. Et on va faire une grande cérémonie, donc il va y avoir, je pense, quelque chose d'intéressant à observer au mois de juillet à Balibo. Mais je pense que c'est vraiment intéressant. Et ce qu'ils voulaient, c'est aussi un livre. Donc on leur donne une documentation sur chacune des maisons. Ils veulent un livre sur l'ensemble de la culture de Balibo, de cette région. Et en creusant un peu, en fait, je me suis aperçue que ce qu'ils voulaient, c'était changer cette image qui était un peu noircie par les événements qui avaient eu lieu en 75 avec le massacre des Australiens, avec l'arrivée des Indonésiens. Et ce qu'ils voulaient aussi, c'est être connus au Timor, c'est-à-dire avoir une place. Alors oui, j'ai oublié de dire, on est dans une société qui parle le Bekaïs. Bekaïs, c'est une langue qui n'est pas répertoriée. Et ils sont 4 clans, en fait, à la parler. Donc ils ne sont pas présents du tout sur la carte linguistique, pas présents sur la carte culturelle. Et ce qu'ils souhaitent, c'est figurer sur la carte identitaire du Timor, dans un contexte où les ministères du tourisme et le secrétariat d'État à la culture veulent faire des centres culturels pour représenter chacune des minorités, si on peut dire, il n'y a que des minorités présentes au Timor. Donc ils veulent exister. Et ce qu'ils veulent aussi, c'était intéressant, c'est ils nous ont vraiment dit, on voudrait être connus dans le monde. Si vous faites un livre, ça va être diffusé. Alors on a beaucoup discuté de langue. Ce qu'ils voulaient, c'était de l'anglais. Ils veulent du portugais. Bon, ils veulent du tétoum aussi pour pouvoir comprendre ce qui est dit dedans. Et donc on a proposé aussi la langue locale, le bekaïs, mais ça va être compliqué parce que personne ne le parle. Et donc il y a cette volonté d'être connu dans le monde et on est vraiment dans une petite culture qui est très consciente de la mondialisation, qui voudrait être présent dans les centres culturels, donc exister. Il y a vraiment une volonté d'exister, ça c'est très intéressant. Donc après la cérémonie concertée dans chaque clan au mois de juillet, il devrait y avoir une ouverture de la parole qui permettra de recueillir toutes ces informations. Voilà. Pour conclure, vous donner un peu un résumé de ce qu'on essaye de faire. Voilà les objectifs en fait qu'on affiche pour nos travaux de cartographie participative. Faire reconnaître la logique et en fait faire reconnaître les fonctionnements locaux comme des éléments valables, par exemple de gestion de la biodiversité, de gestion de la culture, et rendre visible leur culture auprès des décideurs. Ça, c'est une première chose, même si c'est pas évident, parce que, par exemple, dans le premier cas de la région où il y avait un projet pétrolier, on a essayé de rencontrer les responsables de Timor Gap, qui sont les promoteurs de ce projet, et on n'a jamais réussi, ils n'ont jamais accepté de nous recevoir. Donc, c'est pas toujours facile. Le deuxième objectif, comme je vous l'avais dit, c'est les sensibiliser à l'intérêt, sensibiliser les populations à l'intérêt de leur propre culture, puis surtout leur donner un pouvoir dans un contexte où ils sont exclus de tous les débats sur le développement, sont absolument jamais consultés, et ça c'est quand même quelque chose qui pose problème. Or, ces sociétés, enfin ces populations locales, elles sont centrales parce qu'elles sont les cibles de ce développement, et en tout cas les premières impactées. Donc on a aussi la possibilité d'inventorier les sites à valeur patrimoniale pour les protéger, et puis patrimoniale tels que les chercheurs les voient, par exemple des sites archéologiques que les populations ne repèrent pas, ou des sites, certains sites de biodiversité remarquables, et puis des choses qui pour nous ne sont pas visibles comme des patrimoines, mais qui pour les populations, par exemple des pierres, des arrangements de pierres, peuvent être des lieux extrêmement importants, et ça c'est pas discernable quand on est un expert et qu'on vient de l'extérieur sans le constater. Voilà, donc désigner un héritage à transmettre et le valoriser. Et puis c'est aussi le témoignage, nos travaux, c'est le témoignage d'une organisation à un certain moment pour les générations futures, ce qui n'est pas négligeable. Donc juste pour terminer, je voulais terminer sur deux points essentiellement. Donc l'importance de la structure de la société dans les travaux qu'on conduit, c'est-à-dire à Swaï, sur la côte sud, on a finalement travaillé avec un chef coutumier en particulier qui lui avait beaucoup de pouvoir, et grâce à lui les portes ont pu être ouvertes très facilement, tandis qu'à Balibo, dans l'exemple que je viens de vous montrer, toute l'information, tout ce qui touche au passé, à la terre, aux ancêtres, c'est soumis vraiment à des rituels, à une approbation, à des choses extrêmement codifiées. Donc voilà. Ensuite, on adapte évidemment nos solutions aux groupes locaux, j'espère l'avoir montré. Et puis, une question intéressante, est-ce que ça ouvre vers un renouvellement de l'approche scientifique? Parce que là, on n'est plus dans du scientifique pur, on est dans vraiment quelque chose, des savoirs qui se construisent de façon un peu hybride avec ce que les populations ont comme représentation. Et est-ce que ça ne va pas amener à changer les pratiques de la recherche? Voilà, je pense que j'ai tenu le timing et je vous remercie.
Merci à Dominique Guillot, géographe à l'IRD, Institut de Recherche pour le Développement, qui nous offrait avec cette conférence la dernière enquête de terrain d'une série de 6 que vous pouvez toutes retrouver en écoute sur notre site radiogrenouille.com. Bonne journée.